Sud Radio, Regard de femme.
Regard de femme avec Michel Vianès, présidente de l'association Regard de femme à Lyon. Bonjour Michel. Michel Vianès. Ah, on a Michel. Bonjour Michel.
Oui, voilà. Bon, j'étais en train de vous dire bonjour Philippe. Oui. Et bonjour à toutes et tous.
Et Aurore Poyard, avocate à Toulon et écrivaine qui, j'espère, nous entend. Bonjour Aurore.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Michel, bonjour à tous.
On a appris grâce à Rémi André que c'est le printemps aujourd'hui et pas demain. Alors comme il y a un coup de cœur, un coup de gueule pour le printemps, on va commencer par votre coup de cœur, Aurore. Alors, vous êtes très investie dans la lutte contre les violences conjugales. D'ailleurs, j'ai partagé un post cette semaine du directeur de la CAF du Var qui vous mentionnait et mon petit doigt me dit que c'est votre coup de cœur.
Oui, évidemment. Alors, c'est une première en France. La CAF du Var et le barreau de Toulon ont signé un partenariat qui vise à accélérer la prise en charge par la CAF du Var des victimes de violences conjugales. On le sait, elles doivent être relogées rapidement ou, lorsqu'il y a une ordonnance de protection, le mari violent ou l'épouse violente, hein, puisque même si c'est un minimum de cas dans lesquels les hommes sont battus, peut être condamné à quitter le domicile. Il se pose le problème à ce moment-là de l'économie, en fait. Les femmes, souvent, n'ont pas beaucoup d'argent. Les victimes de violences conjugales, il y en a qui ont des revenus, d'autres non. Et donc, la difficulté, c'est d'avoir un logement pérenne et surtout de pouvoir le financer. Donc, ce partenariat avec la CAF du Gard est important puisque la CAF traite les dossiers, les prend en charge en 48 heures et les dossiers sont traités en maximum 8 jours. Donc, c'est une première en France. Le barreau de Toulon a signé ce protocole. Ça fait à peine deux mois qu'on travaillait dessus avec Julien Rolandini et je dois dire que je suis ravie de voir que nous avons un directeur de CAF extrêmement dynamique. Et lorsque je suis allée donc le rencontrer pour lui exposer les problèmes que nous avions par rapport à des victimes de violences conjugales, faut bien se rendre compte que souvent, si elles ne partent pas du domicile et qu'elles continuent à subir les violences, c'est parce qu'économiquement, la plupart sont faibles et qu'elles ne savent pas comment elles vont pouvoir financer un relogement. Dans le Var, aujourd'hui, avec ce partenariat, c'est possible et il va être étendu aux associations le plus rapidement possible.
Très bonne chose dans le Var. Alors après le printemps et le coup de cœur, ça va être un gros coup de gueule de Michel Vianès sur le vote par l'Assemblée nationale hier d'un amendement pour remplacer en sport le genre par l'identité de genre. Expliquez-nous ça, ma chère Michel.
Alors d'abord, je voudrais dire que je suis ravie de ce qui s'est passé dans le CAF et dans le Var et toutes mes félicitations à Aurore pour avoir pris part à une action aussi importante et nécessaire. Oui, alors mon coup de cœur. Alors le 17 mars, c'était mercredi, donc lors de la discussion sur le projet de loi pour démocratiser le sport en France, il y a un article du Code du sport affirme que les droits de tous les individus à un égal accès au sport sans discrimination, ce qui est tout à fait légitime. Dans l'énumération, la première discrimination, c'est en fonction du sexe, puis du genre, puis de l'orientation sexuelle, etc., etc., l'âge, le handicap. Et au moment du vote, un amendement a été présenté par plusieurs députés pour substituer au mot « genre » l'identité de genre. Et il faut lire l'exposé des motifs, et qui est extrêmement instructif. D'abord, on nous signale que cette substitution serait conforme au cadre défini par le droit de la non-discrimination en France, puisque la notion de genre n'est pas reconnue comme un motif de non-discrimination. Alors que les discriminations envers les femmes sont reconnues en fonction de leur sexe. Et si on n'avait pas compris, ça se termine. L'amendement vise à offrir les mêmes garanties de protection aux personnes transgenres dans l'accès à la pratique sportive que celles offertes aux femmes. Et comment ne pas s'inquiéter, en sachant que depuis 2007, les activistes du principe de Yogyakarta sont en train de décliner une stratégie internationale afin de remplacer la notion de sexe biologique par la notion de genre autodéterminé, nous en avons parlé, et les femmes payent un très lourd tribut dans les pays anglo-saxons, où les femmes d'ailleurs s'insurgent, à commencer par les lesbiennes, mais dès qu'elles s'insurgent, elles sont taxées d'homophobie. Et quand dans des équipes sportives, des hommes s'affirmant de genre féminin s'inscrivent dans les compétitions féminines sans d'ailleurs avoir besoin de modifier aucun de leurs attributs biologiques,
ils ont un léger avantage.
Qu'il arrive, ils gagnent toutes les épreuves. Et je rappelle, on en a parlé justement, qu'aux États-Unis, Joe Biden avait pris dès le premier jour de son investiture un décret autorisant les personnes à s'inscrire dans les compétitions du sexe de leur choix. Donc il y a toute raison de s'indigner et surtout d'être très vigilante et de s'inquiéter sur cette...
On comprend votre coup de gueule, ma chère Michèle. On parlait rugby tout à l'heure avec le tournoi des Six Nations. Si on fait un pack, une mêlée avec des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, à mon avis, les deux équipes de France, les pauvres filles, elles sont pourtant très costauds, très grandes sportives, auraient certainement des problèmes vu la force physique des hommes par rapport. Alors, vous avez décidé de parler d'une loi qui est passée en Espagne, Aurore, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. C'est le 4e pays européen à le valider.
Oui, effectivement, il y avait déjà donc les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. L'Espagne vient de franchir ce pas. Ça va relancer forcément le débat en France. Et on a vu une interview de Françoise Hardy cette semaine dans Paris Match qui parlait de l'euthanasie, puisqu'elle est très malade et elle expliquait que sa maman avait pu bénéficier de l'euthanasie, mais qu'elle ne le pourrait pas en France alors qu'elle y est favorable. Donc, ça relance véritablement tout ce débat qui a lieu régulièrement. Et ce qui peut se comprendre, je pense que la difficulté, je ne sais pas si en France on est prêt encore à légiférer, à autoriser l'euthanasie, parce qu'il y a encore un tabou sur la mort, on le voit bien avec le Covid. Oui. Et oui, la mort, ça fait partie de la vie, et simplement, on est dans ces sociétés ultra protégées. La difficulté également de l'euthanasie, c'est que je pense qu'on a tous le fantasme de dire, si un jour je suis un légume, ou si un jour je ne peux pas exprimer ma volonté, est-ce qu'on ne va pas plutôt me tuer sous couvert d'euthanasie ? Donc, légiférer peut-être en France, je ne sais pas, faudrait voir ce que l'opinion publique en pense, mais bien sûr avec des garde-fous, sachant de toutes les manières que chaque fois qu'il y a une loi qui passe, malheureusement, il y a toujours des excès.
Alors justement, Michèle Vianès-Aurore a dit une chose forte, qu'en pensent les gens ? Est-ce qu'un référendum sur ce type de sujet de société, alors c'est un gros mot référendum depuis 2005, hein, tout le monde le sait, est-ce que ce ne serait pas la solution ?
Ce serait sans doute la solution, mais je voudrais rappeler plusieurs choses. D'abord, la loi de 2016, donc celle qui est en activité en France, elle introduit donc ce qu'on appelle les directives anticipées.
Absolument. Voilà. Et c'est la loi Leonetti.
Voilà, exactement. Et avec la nomination d'une personne de confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les pays ? Alors, je voudrais rappeler la Suisse. Je sais pas pourquoi on oublie toujours la Suisse. Alors que
parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne.
Oui,
c'est pour
non
ça.
Mais, voilà. Non, mais quand même. Voilà. Elle est souvent oubliée. Qui a été le premier pays à parler de la justement du suicide assisté. Donc, il y a plusieurs initiatives. Hein. Donc, l'euthanasie active, l'aide au suicide, l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration antalgique dont la conséquence peut-être la mort, mais c'est pas obligé. Et puis l'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un traitement nécessaire au maintien de la vie. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, les avancées de la médecine permettent de maintenir artificiellement en vie, parfois pendant de longues années, des personnes qui sont plongées dans un coma profond irréversible.
On l'a vu avec Vincent Lambert notamment.
Voilà, exactement. Et là, je pense qu'il y a un débat. Pour le moment, aucun des présidents, le précédent et l'actuel, n'ont voulu le lancer. Je pense, par exemple, c'était une des promesses de François Hollande. Hein, quand il a vu les conséquences et la réaction violente lorsqu'il a été question de mariage pour tous. Donc, à ce moment-là, il a reculé sur ce principe. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On veut, la question qui vient de poser Aurore, c'est en l'absence d'avis du patient sur la fin de vie, que fait-on ? Et quelle place accorder à la subjectivité du médecin ? Parce qu'aujourd'hui, c'est les médecins qui décident. Et c'est ça qui est quand même un petit peu gênant, de leur donner quelque part ce droit de décider de la vie, de la mort des personnes. Donc, pour moi, je pense qu'un référendum serait une excellente idée, à condition que, si tout le monde peut s'exprimer comme il l'entend.
Aurore Boyard, le mot de la fin, en 45 secondes, vous seriez pour un référendum sur ce type de sujet vraiment, on ne peut plus intime et on ne peut plus de société ?
Oui, bien sûr, complètement, d'autant que c'est effectivement intime, et je pense qu'il faudrait au préalable expliquer aux gens dans quel cadre législatif cela s'inscrirait, c'est-à-dire, comme a décrit Michèle, les différentes possibilités, directives anticipées, euthanasie passive, ici et là, parce que les gens, je pense, ne sont pas suffisamment informés. Voilà, donc il faudrait, je pense, d'abord un débat national, il faudrait expliquer ce que l'on pourrait mettre dans la loi de façon à rassurer les gens et que la décision puisse venir d'eux-mêmes.
Merci beaucoup, Aurore Boyard. Vous avez utilisé un mot, le débat national. quand on voit ce qui est devenu le grand débat national au moment des Gilets jaunes, si on fait un débat national là-dessus, j'espère qu'il n'aura pas la même destinée, c'est-à-dire de finir dans les archives, des archives départementales un peu partout en France et en Navarre. Merci beaucoup à toutes les deux. Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de Femmes à Lyon, Aurore Boyard, avocate à Toulon et écrivaine. De suite, le journal des sports de Gaspard Devaux-Bicourt. Il y a beaucoup de choses, notamment du foot et du rugby.